Du dimanche 6 au jeudi 10 octobre 2002, journée marathon dans la capitale. Une odeur de thé vient nous réveiller. Ousmane nous a préparé un petit déj digne des plus grands hôtels. Pain, confiture, beurre, café au lait, thé. Un véritable continental breakfast pour des étrangers croisés dans la rue au milieu de la nuit. Tant de prévenances nous mettent mal à l'aise. Ousmane nous explique que c'est un devoir de nous accueillir chez lui. L'hospitalité est une des valeurs fortes de l'islam. Le petit déjeuner avalé, le déjeuner arrive vite. Poulet frites, quel délice. Ousmane est malien. Il est venu travailler en Mauritanie pour mettre de l'argent de côté. Dans quelques années, il pourra ainsi s'acheter une voiture et une maison dans son village natal et rentrer pour se marier. Il n'aime pas ce pays. Les morts sont méchants. Il n'a qu'un seul ami, un Sénégalais. Il a gaspillé l'argent du petit commerce que ses parents lui avaient légué au Mali. Il endure la vie ici pour se racheter et revenir fier du fruit de son travail. Le docteur Mbarek, président de la fédération AN, d'e-sport de Mauritanie, nous accueille ensuite chez lui. Il avait été l'un des premiers à répondre favorablement à notre projet il y a un an. Il a longuement mûri les avantages que pouvait offrir ce périple en Mauritanie. Son angle d'action, profiter du passage des tandems pour communiquer et sensibiliser la population sur les enjeux et possibilités de guérison de la cécité. 15% de la population âgée de plus de 50 ans en souffre dans le pays. Dans la majorité des cas, la cataracte et le trachome en sont responsables. Des guérisseurs traditionnels vendent leurs services à prix fort. Une petite intervention rapide, mais douloureuse, permet à certains de recouvrer la vue à court terme. Ils la perdront définitivement quelques mois plus tard, lorsque le guérisseur sera déjà loin. Passant de village en village, ils exploitent la crainte qu'ont les paysans de la médecine moderne, de l'hôpital et des opérations chirurgicales. Ces dernières sont pourtant gratuites, grâce à d'importants programmes financés par les organisations internationales et certaines ONG. Notre mission, une sensibilisation à ces pratiques. Notre départ donnera lieu à un événement retransmis par les médias nationaux, presse et télévision. Et notre parcours permettra de rencontrer, discuter et présenter ces pratiques sous forme d'animation théâtrale. Notre action se passe sous l'égide de l'hôpital ophtalmologique de Nouakchott. Nous nous formons aux différentes réalités du pays et aux rudiments de médecine lors de nos visites à ce dernier et au siège du programme national de lutte contre la cécité. C'est un préalable important pour pouvoir faire face à un maximum de questions par la suite. Abdoul et Ousmane, nos deux coéquipiers désignés par le docteur Mbarek, nous accompagnent. C'est l'occasion de faire les premiers tours de roue ensemble et de faire connaissance. Ousmane, non-voyant de naissance, n'a jamais fait de vélo de sa vie. Abdoul, malvoyant, est d'emblée enthousiaste. Il a déjà fait du vélo et souhaite pouvoir aller encore plus vite en tandem. D'autres associations sont intéressées par notre projet. La RBC, réhabilitation à base communautaire, chargée d'aider les personnes handicapées là où elles se trouvent, et l'Association mauritanienne de protection des handicapés de la lèpre nous ouvrent leurs portes pour nous présenter leurs actions et leurs besoins. Tous cherchent à aider les personnes handicapées à sortir de leur isolement, à les intégrer pleinement dans la société. Dans les villages, ces derniers sont souvent comptés comme étant à la charge de leur famille et considérés comme des bouches inutiles. Le sport, le tandem, notre projet interpelle, car ils permettent de montrer qu'un aveugle et toute personne handicapée en général sont capables de beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Cyrano et Noisette ont quelque peu souffert du voyage. Du sable s'est infiltré un peu partout. Une station-service met à notre disposition son tuyau d'eau pour chasser ces particules. Elles ne font pas bon ménage avec les pédaliers, les changements de vitesse et les roulements à billes. L'enseigne, les pompes, la boutique, l'ensemble de l'infrastructure ainsi que la tenue des employés sont identiques à ceux d'une station sur le périphérique parisien. Seul le décor est très différent. Notre projet intrigue l'employé qui nous regarde faire. Il nous fait remarquer. « Vous, les Européens, Vous avez tellement de bonheur que vous venez chercher la souffrance ici en pédalant. En Mauritanie, nous avons tellement de souffrance que nous cherchons seulement à souffrir le moins possible. A-t-il tort ou raison? Certains nous surestiment, admirant le fait que nous allions souffrir sur un vélo, si loin de chez nous, pour proposer cette activité à des aveugles. D'autres ne comprennent pas. Pourquoi quitter le confort que nous avons en France? Beaucoup ne s'en sentent pas capables. Nous nous rendons compte que la principale force de notre entreprise réside dans le fait que les gens rencontrés sur la route sont impressionnés par l'exploit des deux coéquipiers non-voyants. Bien souvent, c'est la première fois qu'ils voient un aveugle ou un malvoyant faire quelque chose dont eux-mêmes ne sont pas capables. En France, quand nous leur parlions de ce projet, plusieurs personnes, amis ou connaissances, se demandaient pourquoi nous voulions partir prendre des risques ailleurs quand il y a déjà tant à faire dans notre pays. On nous a souvent pris pour des naïfs utopistes. Voyager, faire du vélo, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures, nous aimons ça et souhaitons le partager. C'est ce qui nous a réunis pour construire ce projet. Ce que certains perçoivent comme du masochisme est pour nous l'accomplissement d'un merveilleux rêve. Il est vrai que nous avons déjà beaucoup de bonheur en France. Nous le partageons au fur et à mesure de ce voyage avec tous les petits princes que nous rencontrons. La femme du docteur Mbarek a accouché il y a peu de leur deuxième enfant. La tradition veut qu'elle retourne dans sa famille les premiers mois après la naissance. Nous sommes présentés à tout le monde. Ici, contrairement au Maroc, le monde des femmes nous est ouvert. Les canons esthétiques sont à l'opposé de ceux qui prévalent en Europe. Ici, une belle femme est une femme qui se porte bien, autrement dit, plus elle est ronde, plus ses formes sont généreuses, plus elle est désirable. Cela conduit aussi à des excès. Certaines femmes absorbent des breuvages à base de graisse pour pouvoir gagner un maximum de poids. On est loin des régimes Weight Watchers. Mercredi, nous assistons à un entraînement de l'équipe nationale handisport de basket sur fauteuil. Le docteur Mbarek nous rejoint après avoir fermé son cabinet de chirurgien-dentiste. Nous avons toujours le même problème, un manque de matériel. Voyez ces athlètes qui s'entraînent, chacun avec un fauteuil différent. C'est encore pire lors des compétitions internationales. Ceux qui gagnent sont souvent ceux qui ont le meilleur matériel. Ils participent au JAPAF, les Jeux de l'avenir pour personnes handicapées de l'Afrique francophone, JAPAF, sont organisés tous les deux ans depuis 1994. La première édition a eu lieu au Burkina Faso. Les éditions suivantes se sont tenues au Bénin, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Chaque pays y envoie ses meilleurs athlètes. Et ont pu se déplacer pour les Jeux paralympiques de Sydney en 2000. Le ballon continue à rebondir et à s'envoler vers le panier, pendant que les fauteuils s'engagent dans une course-poursuite pour le récupérer. Sur le banc de touche, l'un des joueurs répare la chambre à air percée de l'une de ses roues. Ces gestes nous rappellent certaines crevaisons de nos tandems. L'après-midi est réservé aux politiques. Nous courons d'une administration à l'autre. Après de longs moments passés dans des salles d'attente, nous rencontrons plusieurs hauts fonctionnaires et un ministre. Ils nous accordent des autorisations nécessaires au bon déroulement du périple. Nous n'avons que peu de possibilités de parcours. Les tandems chargés ne peuvent rouler sur le sable et le réseau routier de la Mauritanie est limité. Rosso Attar et Nouakchott Nema. Peu rassurés de voir deux tandems rouler sur ces axes où, nous disent-ils, la circulation est dense, nos bienfaiteurs organisent notre transport ainsi que celui des tandems jusqu'à Kaédi. De là, une route secondaire bitumée nous permettra de rejoindre Aleg, 310 km plus loin en tandem. Un autre véhicule nous ramènera ensuite vers la capitale. Nous sommes déçus par la faible distance. Nous ne sommes pas là pour avaler les kilomètres, mais en deux semaines, nous aurions eu la possibilité de rouler davantage et d'élargir à d'autres régions la sensibilisation pour laquelle nous nous sommes préparés. Le 4x4 qui nous transportera ne nous donneront pas la même proximité avec les populations que les tandems. Après discussion, nous décidons de faire également le trajet Nouakchott-Rosso en tandem. Nous avons du mal à sentir l'équilibre entre une initiative simple et spontanée et la rigidité, les complications que nous rencontrons à chaque fois qu'il faut y impliquer les autorités et les médias. Nous retrouvons nos coéquipiers le soir chez le docteur Mbarek. Abdoul est enchanté car il est né à Kaïdi et une grande partie de sa famille y réside encore. Nous sommes heureux de constater que l'itinéraire enchante tout le monde. Je vais aider Aloua dans la cuisine. Ce dernier est le fils d'un cousin du docteur. Il nous prépare chaque jour le petit déjeuner. Le déjeuner et le dîner, débarrasse, fait la vaisselle. Nous l'aidons dès que nous pouvons. Je ne suis jamais très à l'aise dans cette cuisine. Des centaines de cafards se sont appropriés le sol. Il faut toujours faire attention de ne pas en écraser. Il me demande de vérifier la cuisson du contenu des deux marmites. Je soulève un couvercle. À l'intérieur, une tête de chèvre. La deuxième marmite renferme un contenu identique. Je remue légèrement avec une grande spatule. Aloua semble satisfait de la cuisson. J'appréhende déjà le dîner. J'ai toujours fait honneur à ce qu'on nous offrait. Pour la première fois, je rencontre des limites à mon appétit de découverte culinaire. Je laisse la surprise à Jean-Christophe. Nous sommes assis en tailleur autour de la table basse. Les mets sont posés au centre. Nous nous regardons furtivement. Ni l'un ni l'autre n'est très à l'aise. Nous expliquons au docteur que c'est la première fois que nous avons l'occasion de manger une tête de chèvre et le remercions pour cette attention. « Vous verrez, nous dit-il, c'est la partie de l'animal qui renferme le plus de saveurs différentes. Cela vous donnera des forces pour le départ demain. » Abdoul nous explique que c'est un grand privilège de se faire servir ce plat. À nous d'y faire honneur. Le docteur commence à disséquer la viande attachée à la face extérieure du crâne et la distribue par petits bouts à chacun. Nous l'imitons. Ce n'est pas mauvais. Jean-Christophe et lui arrachent ensuite la mâchoire pour pouvoir récupérer la viande à l'intérieur. Il faut continuer à gratter les os pour en extraire la viande. La langue, les gencives, les oreilles sont mangées. Il est vrai que chaque partie a une saveur très différente. Si seulement nos yeux pouvaient ne pas trop faire attention aux détails. Je trouve que la cervelle a le goût de poisson. Restent les yeux des deux chèvres. Nous les laissons à nos deux coéquipiers, le docteur et Aloua qui s'en régalent. Je crois que je n'ai jamais été aussi content d'avoir terminé un plat comme celui-ci. Hier, nous avons eu droit à un cours pour apprendre à manger le couscous mauritanien. Il ne faut pas se servir de la main gauche, réservée à l'hygiène intime. La main droite doit former une boulette de riz, la faire rouler dans la paume et la faire ensuite rebondir légèrement. Les aliments sont prêts à se faire expulser par le pouce, qui agit comme un levier pour les projeter dans la bouche. Facile ? Presque, mais avec un peu d'entraînement. Nous passons la soirée tous les six. Abdoul trépigne d'impatience. Le départ officiel a lieu demain.